Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Prenez jamais le temps de rien, vous éteignez comme des chiens, et puis après pour vous calmer, ben achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'autre B, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est empli de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Puis moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, constellation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré, sur nous qui fait son pognon, il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, et toi tiens droit, non tiens pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse, si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a les gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous ce carton avec trompette et clairon. Le problème c'est qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule. Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je vis de musique et d'espoir, mais là vraiment il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. Et qu'on explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes, qu'on va les jeter en prison, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pareil qu'il y a déjà peut-être pas quoi. Puis quand on est là réunis, on a qu'à décider d'un jour, moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces vautours. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution leur donne à tous le sourire.
Salut à tous, bienvenue donc sur Fréquence Pareil Pluriel, donc avec l'émission Zoom Écologie.
Et 6.3 FM.
Ah oui, RFPP 106.3, la fréquence. Sur notre émission aujourd'hui, donc vous êtes avec la bande à Bébel. Pour vous les présenter, donc à gauche, il y a Cyril.
Salut, qui dégouline.
Oui, parce que il fait chaud et humide à la fois aujourd'hui. Et en face, nous avons donc Clément.
Salut, moi je dégouline pas, je suis venu à pied tranquillement.
Et donc l'émission d'aujourd'hui, on va vous parler donc de deux thèmes essentiellement. On espère avoir donc Maxime Combe bientôt donc au téléphone, qui est donc d'Attaque France. L'high-tech et d'une association aussi qui s'appelle Alterico. On lui laissera présenter tout ça quand on l'aura au téléphone. Et à ma droite, donc, on va vous parler aussi de la cycloficine. Et il y a ici donc Giuseppe qui est à côté.
Bonjour.
Qui va nous en parler. Et il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre, nous espérons,
si
bientôt.
Si tout va bien. Ouais.
Si tout va bien. Tout à fait. Et vous étiez en train d'écouter Zoufri Maracas, donc, dans une chanson qui s'appelle Les cons. En gros, les cons, c'est nous tous. Hein, vous l'avez peut-être compris si vous avez bien écouté.
Bah, parle pour toi.
J'assume ma connerie jusqu'au bout. C'était aussi après un temps électoral. Comme vous savez, en fait, donc on a appris récemment que avec le nouveau gouvernement donc qui est arrivé, donc Nicole Bricq, qui était la ministre chargée de l'écologie, a été donc limogée, tout simplement. En gros, elle a été mutée ailleurs. Et pas mal d'associations, pas mal de journaux disent que c'est à cause de ses prises de position. En Guyane notamment, donc il y avait Shell qui voulait faire des forages pour extraire du pétrole et pour extraire du pétrole. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu donc, le droit de le faire. Enfin, elle les en a empêchés en leur disant qu'il fallait faire une réforme du code minier. Donc, elle essaie d'appliquer un peu plus ou moins la loi, comme un ministre doit le faire. Ce contre quoi, en fait, il y a eu beaucoup donc, de mobilisation de la part des pétroliers qui ont fait donc, pression sur le gouvernement pour que... donc, d'après ce que les articles comme celui du Monde qui date du 26/06/2012, ça serait dû en fait à cette prise de position les pétroliers en gros auraient demandé sa tête. C'est ce que prétendent donc de pas mal d'informations sur internet, ce qui pose beaucoup de questions actuellement donc parce que voilà, enfin un gouvernement n'a pas à subir autant de pression de la part d'obéir à Total et à Shell notamment à ce sujet, ce qui est vraiment très problématique pour un gouvernement qui vient à peine d'arriver. Bon, celui d'avant, il a fait démissionner la ministre de l'Environnement pendant un mois, ça veut dire que c'était vraiment pas important pour lui. Et ils ont mis à la place donc Delphine Bateau, qui elle n'y connaît pas grand chose en environnement, on dirait, d'après quand on regarde son CV. Et qui est plutôt donc dans la sécurité. Elle s'y connaît beaucoup dans ces thèmes-là. Donc voilà, et c'est vrai que beaucoup d'ONG s'inquiètent énormément à ce sujet parce qu'en fait Nicole Briggs en fait selon eux faisait pas du mauvais boulot quoi. C'était des signes très positifs qu'elle avait donnés par rapport à certaines réclamations. Et là, hop, d'un seul coup, ils sont obligés de tout refaire. Ils savent pas qui est la nouvelle personne qui arrive. Donc de refaire des négociations avec eux, enfin, de reparler un peu d'énergie, de ces thématiques que nous défendons aussi à Zoom Écologie.
Et il y a eu des réactions du côté de Cécile Duflo ou des Verts?
Alors, il y a eu donc une réaction de Jean-Vincent Placé, qui s'est permis de dire que, en gros, enfin, de mettre. Enfin, ce limogeage, en fait, c'était quand même un drôle de message. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme information pour l'instant.
C'est vrai, je dis donc. Hein.
Ouais, mais pour l'instant, sinon ils ont été très. Sinon, la droite les a attaqués. Alors là, la droite les a attaqués fortement. Nathalie Kosciusko-Morizet et Chantal Jouanneau sont remontés au créneau pour dire regardez, hein, vous dites que en gros vous êtes écolo. Je vais vite hein, parce que j'ai pas les citations devant moi, mais en fait vous virez une personne sous les pressions donc de multinationales. Que eux, ils ont permis de toute façon à Shell et Total de fourrer leur. De faire du forage pour aller chercher du pétrole. Donc, ça, c'est de la palabre politique, comme on dit. Mais bon, c'était quand même un événement intéressant et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. C'est pourquoi je pensais que c'était important qu'on le redise ici aussi. Sinon, à part ça, je ne sais pas si Rebecca, si Maxime est au téléphone ou non. Donc, du coup, on va poursuivre avec les petites nouvelles, les petites actus. Donc, en gros, récemment aussi, ça c'est un peu plus positif. La région Île-de-France, en fait, a inauguré récemment les 16 premières éoliennes franciliennes. Donc ça c'est quelque chose de plutôt positif. Et elles étaient déjà là depuis septembre 2011. Hein, ils ont fait que inaugurer. Donc du coup, ils ont communiqué là-dessus au niveau de la région. Donc vous verrez les informations sur leur site internet. Et ils ont vu donc notamment que le potentiel aussi, enfin ils ont fait une étude le potentiel serait de 100 à 180 éoliennes dans l'est de l'Île-de-France surtout, où il y a un gros potentiel en fait pour faire entre 200 et 540 mégawatts, donc qui serait l'équivalent en fait de ce que consomment 200 000 à 400 000 personnes. Donc c'est plutôt c'est un signe positif déjà. Là je mets un événement négatif avec un événement plutôt positif entre guillemets. Sachant que il n'y avait pas d'éoliennes en fait en Île-de-France auparavant, en septembre 2011.
Il y avait beaucoup de moulins à vent à l'Assemblée nationale, mais
voilà. En effet.
Ça ne produit rien.
En effet. Et donc du coup, il y a eu donc ça c'est une bonne nouvelle. Après donc dans les nouvelles, on a aussi récemment en fait. Alors ça c'est aussi un truc qui est pas passé, enfin qui est passé inaperçu. Donc il y a un article, un très très bon article sur Bastamag, donc là-dessus. Et en gros en fait il y a eu aussi un article donc dans le Canard Enchaîné à ce sujet. En fait il y a l'entreprise donc de restauration collective Sodexo qui je sais pas, vous connaissez, non?
Ah, malheureusement.
Ça m'est arrivé de manger chez eux, je crois.
Pareil, hein, en fait, tout le monde ne le sait pas, mais c'est eux qui ont une délégation, en tout cas, au niveau de la restauration collective, enfin, qui ont pas mal de marchés au niveau de la restauration collective en France. Et donc, en fait, ils ont fait un truc assez hallucinant, c'est qu'en fait, ils ont fait une campagne pour promouvoir le fait de manger moins de viande. Donc, de manger moins de viande, et ils voulaient même faire des journées sans viande. Vraiment, c'est assez étonnant. Hein. Enfin,
et le jour après, il continue
comment ?
Sans problème. Le jour après, il continue sans problème à abattre.
Alors justement, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des affiches, des campagnes de communication où, en gros, ils expliquaient que l'être humain est un carnivore, qui mange, enfin, vraiment des campagnes de sensibilisation assez pédagogiques à ce niveau-là et assez fortes. Pour dire comme quoi, bon, manger de la viande, c'est pas très sain, ça peut rendre obèse. Enfin, ça montre un peu les côtés négatifs de la viande. Et ce qui s'est passé, le lobby des producteurs de viande est remonté au créneau tout de suite en disant « Mais attendez, vous êtes complètement, en gros, t'arrêtes de faire ce que vous faites. » Et notamment, donc, c'est surtout ce lobby, en fait, donc d'après Agnès Rousseau, donc de Bastamag, c'est de la FNSEA, qui serait remonté au créneau. Et du coup, en fait, en plus, la campagne de communication est efficace parce que les gens commençaient à manger moins de viande. C'est surtout pour ça qu'ils sont remontés au créneau. Donc du coup, vu que les personnes commençaient à manger moins de viande, la FNSEA est remontée au créneau et l'affiche a été retirée. Donc les affiches ont été retirées et Sodexo a présenté ses excuses. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Pourtant, on se dit, pour une fois, ils nous ont étonnés.
Il y a ses excuses à qui, pardon?
Aux producteurs de viande.
Limite, ils les ont insultés, quoi.
C'est vrai que c'est une...
Imaginez pas, tout le monde allait devenir végétarien.
Même pas, c'était juste promouvoir. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, ce qui paraît, qui ne mangeaient même plus de viande après, parce qu'ils étaient tellement dégoûtés quand ils voyaient ces campagnes, qui sont très chocs.
Puis c'est la crise aussi, ça coûte cher.
Oui, bon, enfin...
Peut-être que Sodexo fait moins de bénéfices sur les repas avec de la viande. Enfin, je sais pas, il y a sans doute une explication derrière élan de générosité informative.
Non, mais le problème, pour le coup, il ne vient vraiment pas de Sodexo, mais vraiment des producteurs. Pour le coup, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. On peut leur en vouloir d'avoir retiré l'affiche, justement, mais je ne sais pas quels sont les moyens de pression, en fait, de la FNSEA. Ils ont juste fait de la communication autour pour dire que c'était une campagne de communication calomnieuse, qu'il fallait la stopper, des choses comme ça. Mais en fait, c'était tout, quoi. Enfin, en gros, leur campagne n'avait pas l'air si choquante que ça. Hein. Je pense que pour avoir vu des mouvements vegan, des choses comme ça, ou des films comme Earthlings à ce sujet, c'est quand même très très choquant. Là, on voit bien que, donc pour ceux qui veulent devenir végétariens, qui hésitent, regardez Earthlings, c'est très très efficace comme film à ce sujet. Donc ouais, ces campagnes étaient plutôt vraiment pédagogiques, et notamment, donc il y avait des choses qui parlaient aussi des émissions de CO2 dedans, qui était envoyé, et donc justement la FNSEA en disant a remonté au créneau en disant que c'était vraiment limite de la désinformation, enfin que c'était une campagne donc de communication calomnieuse, alors qu'en fait ils se basent vraiment sur des études, les chiffres en fait au niveau du CO2 qui sont ressortis, en fait c'est-à-dire que par exemple la production d'un kilo de viande de veau pollue autant qu'un trajet automobile de 220 km. Par exemple, en fait, ces chiffres-là existent vraiment. Et il y a eu des études donc de Jean-Marc Jancovici à ce sujet, à ce niveau-là. Donc, je pense que nous avons Maxime Cambe au bout du fil. On me fait des grands signes derrière la bulle, dans la bulle. Oui, oui. Donc Rebecca, tu peux me passer.
Oui,
donc,
alors bonsoir.
Maxime Cambe.
Donc on a Maxime au téléphone.
Bonsoir.
Je passe le communication.
Allô Maxime.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc Maxime Camp, donc de d'Attaque France, Hightech, Alter Echo. Merci donc d'avoir répondu à notre appel. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait les trois organisations dont tu fais partie ? Et je pense qu'on pourrait te présenter aussi comme un altermondialiste pour nous parler donc de Rio actuellement, donc avec les derniers événements qui sont arrivés.
Attaque France est une organisation qui lutte et qui s'engage pour désarmer le poids et le pouvoir de la finance sur nos vies, sur les économies, sur nos sociétés et maintenant également sur la nature et la gestion des ressources naturelles, puisqu'ils veulent étendre les mécanismes financiers à la préservation de la nature et des ressources naturelles. Et nous travaillons donc de plus en plus sur ces questions-là, écologie, qui mêlent les questions écologiques et les questions sociales à l'échelle internationale, en suivant les négociations de type ONU. L'ETEC, c'est une petite organisation qui fait de l'expertise citoyenne dans plusieurs domaines, et Alter Echo, c'est un projet personnel avec quelques autres personnes pour rendre compte des véritables alternatives face aux défis climatiques, défis environnementaux et l'ensemble des crises auxquelles nous sommes confrontés.
Merci Maxime. Donc, alors, pour aller au fond du sujet donc, qui nous concerne aujourd'hui, donc, sur Rio. Donc, Rio de Janeiro, donc, c'est la deuxième plus grande ville du Brésil, hein, pour information. Et en fait, quand on parle de Rio, on parle surtout de la conférence donc, des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Donc, il y avait eu lieu, donc, si je ne me trompe pas, donc, du 3 au 14 juin 1992. Donc, ça a été vraiment bien médiatisé à l'époque. Et donc, à cette conférence, donc, il y a eu justement, ça a été l'occasion d'adopter donc un programme d'action pour le 21e siècle, justement, avec donc notamment, ça a été aussi le moment en fait d'un texte fondateur avec 27 principes, donc intitulé Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, qui précise aussi donc la notion de développement durable. On peut en parler si tu le souhaites. Donc en fait, en gros, ils avaient fait pas mal de textes sur qui ont eu des conséquences en fait plus tard sur des politiques publiques. Et notamment donc ils ont pas mal il y a eu des documents qui en sont sortis sur donc le programme donc enfin sur les choses qui concernent donc les agendas 21, les politiques publiques qui sont menées dans les institutions en général en termes d'environnement, des choses comme ça. Il y a eu la déclaration donc de Rio comme sur l'environnement et le développement, la déclaration donc des principes concernant les forêts, la convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a eu aussi une convention donc des Nations Unies sur la diversité biologique, la convention des Nations Unies donc sur la lutte contre la désertification. Donc en 92, ça va vraiment il y a eu beaucoup de choses qui en sont sorties, et aujourd'hui donc on se retrouve 20 ans plus tard donc avec une actualité assez débordante à ce sujet et qui est plutôt négative à ce que j'en ai entendu parler. Est-ce que tu veux réagir à ce sujet?
C'est la raison pour laquelle vous avez essayé de me joindre, donc de parler peut-être moins du sommet de Rio 1992 que de celui qui vient de se tenir 20 ans après, donc qui s'appelait Rio plus 20 et qui s'est tenu également à Rio, et dont le sujet principal portait non plus sur le développement durable mais sur ce qu'ils appellent l'économie verte et le cadre institutionnel pour la mise en place de cette économie verte sur laquelle je vais revenir. On peut revenir effectivement à 1992, mais on pourrait également revenir à 1972, qui fut la première rencontre de l'ONU sur les questions environnementales de ce type à Stockholm. Et donc Rio plus 1 était en fait un Stockholm plus 40. Et même sur la question et la prise en charge des enjeux de questions liées à la préservation de la nature, gestion des ressources naturelles, il serait intéressant, comme nous avons eu l'occasion de le faire dans le petit livre d'attaque qu'on vient de publier qui s'appelle « La nature n'a pas de prix, les méprises de l'économie verte », revenir sur les politiques qui ont été menées sur ces questions-là dès après la Seconde Guerre mondiale et qui expliquent les tendances et comment évolue la prise en charge à l'échelle internationale des enjeux environnementaux au cours des décennies. Le sommet de Rio 92 a effectivement amené une série de cadres de discussion et de cadres de négociations ultérieures qui se traduit notamment par les négociations sur le changement climatique, celles qui sont les plus connues et pour lesquelles chaque année nous avons un sommet de l'ONU qui se tient en fin d'année, et donc Copenhague a été un des moments récents les plus médiatisés. Mais effectivement, également, tout ce qui a été Agenda 21 et qui, finalement, 20 ans après, a abouti à une institutionnalisation et le développement. On a partout maintenant des ministères de l'environnement, des directions de l'environnement ou des vice-présidents chargés de l'environnement dans toutes les collectivités locales. Et donc, on a finalement une institutionnalisation des questions d'environnement et de développement qui est à notre avis, inversement proportionnel à la réalisation des objectifs qui avaient été fixés en 1992. Et ça, c'est un des premiers écueils aujourd'hui que nous vivons réellement, c'est-à-dire qu'aucun bilan réel n'a été tiré de 20 ans de politique publique entre 1992 et 2012. Aucun bilan n'a été tiré de l'échec des négociations climatiques, puisque chaque année, nous battons un nouveau record d'émissions de gaz à effet de serre et un nouveau record de réchauffement. Aucun bilan n'a été tiré des politiques pour lutter contre la perte de biodiversité, puisque nous sommes en train de vivre une des plus grandes phases d'extinction de biodiversité que la planète n'ait jamais connue. Les bilans n'ont pas été tirés puisque la désertification n'a amené, les discussions sur la désertification n'ont amené à aucune politique d'ampleur à l'échelle internationale. Et d'une manière générale, tout ce qui avait été plus ou moins acté, mis en place en 1992, une série de principes un peu fondateurs sur lesquels on peut revenir, qu'on peut critiquer, sont petit à petit décortiqués des faits par les négociations qui se trament depuis une dizaine d'années, et on ceci notamment parce que nous avons changé assez précisément de période géopolitique. On a connu une petite dizaine d'années dans les années 90 d'âge d'or du multilatéralisme onusien, et depuis les années 2000, la géopolitique internationale, l'émergence de la Chine, l'émergence du Brésil font que les grandes puissances internationales comme les États-Unis, l'Europe, le Japon ou d'autres pays n'ont plus vraiment de considération pour les enjeux écologiques, les enjeux de développement, si jamais ils en avaient eu auparavant. Et donc ce limite expressément et uniquement à essayer d'entraver l'émergence de la Chine et du Brésil comme puissance internationale, et donc c'est ça qui aujourd'hui détermine grandement les résultats de ces négociations. Et donc Rio plus 20, qui s'est tenu cette année, a amené une déclaration finale qui est à la fois extrêmement faible en termes d'engagement concret et à la hauteur des enjeux pris par les États. Grosso modo, il n'y en a aucun, il y a quelques petites choses qui ont été plus ou moins préservé ou plus ou moins avancé, et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas c'est rien qui soit à la hauteur des enjeux, à la fois des questions écologiques, des questions sociales et de développement ou de lutte contre la pauvreté, et de faire en sorte que les populations les plus pauvres de la planète aient accès à un lot de services et de biens de première nécessité, aussi bien sur le plan démocratique et de la gestion internationale et des décisions internationales sur ces questions-là qui engagent l'ensemble des populations mondiales. Donc,
oui, Maxime.
Faible, mais cette déclaration, au final, elle est faible sur le contenu, elle est faible sur les engagements, mais elle est extrêmement pernicieuse parce que tout ce qui n'est pas dit dans cette déclaration peut être poursuivi et mis en place à l'extérieur de cette déclaration, et c'est ce qui nous inquiète le plus parce qu'on voit aujourd'hui un certain nombre d'institutions internationales en alliance avec des multinationales et quelques pays préconiser l'extension des mécanismes de marché, l'extension des logiques financières, l'extension la création de nouveaux actifs financiers pour ce qu'ils appellent préserver les ressources naturelles, préserver les services écosystémiques, c'est-à-dire les éléments qui nous sont fournis par la nature sans qu'on lui demande rien, comme la purification de l'eau, comme la pollinisation, comme la gestion des aliments et le cycle des aliments. Et donc, pour préserver cela, ils considèrent que le meilleur moyen, c'est de créer de nouveaux actifs financiers, de nouveaux droits, comme les droits à polluer pour la question du carbone et des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ils veulent l'étendre aux forêts, ils veulent l'étendre à la biodiversité. Et donc, comme cette déclaration finale ne met pas un stop à ces logiques-là, ces dynamiques-là vont être poursuivies et on se retrouve avec des situations complètement aberrantes. Aujourd'hui, on a par exemple des forêts au Brésil dans lesquelles il n'est plus possible de mettre un seul pied parce que la gestion et la préservation de cette forêt est financée par General Motors. Et donc, rentrer dans la forêt et ne serait-ce que couper un brin de cette forêt-là, c'est-à-dire simplement une branche, c'est contrevenir à la quantité de carbone stockée par la forêt et donc contrevenir au stock de carbone que préserve General Motors par ses financements. Et donc on a clairement, par exemple, des populations qui n'ont plus accès à une forêt dont ils vivaient, c'est-à-dire simplement avoir accès à des ressources naturelles au sein de la forêt. Donc, et ces logiques-là ne sont pas... des exemples comme ça, on en a par dizaines, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure, et donc de s'opposer à ces logiques-là à l'échelle internationale, qui vont être développées en dehors de tout cadre multilatéral, en dehors de tout cadre onusien, car bien même si ça n'a pas été validé expressément à l'ONU, ça n'a pas été remis en cause, et ce qui n'a pas été remis en cause va pouvoir être poursuivi du fait de la toujours plus grande présence des multinationales dans ces cercles de négociation et à l'échelle internationale pour diriger le monde là où on pense qu'il faudrait que ce soit les peuples qui décident de leur avenir et non pas des intérêts privés tels que les multinationales.
Oui, alors du coup, Maxime, merci, Maxime, merci pour ces détails. Donc, il y a eu aussi un sommet des peuples, donc à côté. Je crois que tu avais été. Est-ce que tu peux nous en parler et justement quelle solution donc a proposé donc le sommet des peuples en dehors de ce cadre donc de l'ONU pour l'instant.
La première des solutions, c'est qu'il faut se réapproprier l'ONU. Il faut se réaccaparer l'ONU. Il faut se réaccaparer cette institution internationale qui, bien que non totalement démocratique, parce qu'elle a un conseil de sécurité, parce qu'elle pourrait être largement améliorée, c'est aujourd'hui le seul cadre international qui permet à l'ensemble des pays de la planète, les petites îles océaniques comme les grands mastodontes puissants des gros continents, d'être autour de la même table et de discuter d'égal à égal. Aujourd'hui, malheureusement, toute une série de pays ont ouvert des cycles de négociations parallèles et hors de l'ONU, et les multinationales et le secteur privé et les agences financières ont de plus en plus de poids au sein même de l'ONU, en finançant des projets, en finançant les projets de l'ONU et en édictant bien souvent quelles sont les préconisations à prendre. Et par exemple, toutes les préconisations, toutes les recommandations de ce qui s'appelle le Global Compact, qui regroupe l'ensemble des multinationales à l'échelle internationale dans le cadre de l'ONU, a fait des recommandations, et ces recommandations-là se trouvent dans la déclaration finale du sommet officiel. Par contre, aucune des recommandations, aucune des exigences portées par le sommet des peuples et des mouvements ne se trouve dans cette déclaration. Donc la première des choses à faire, c'est qu'il faut remettre la main sur l'ONU et que l'ONU redevienne ou devienne tout court une instance qui soit au service des peuples et pas au service des puissants. Ceci, comment le faire? Il y a une campagne qui vient d'être lancée pour dénoncer la capture par les multinationales et les secteurs privés sur l'ONU et plus largement sur les institutions internationales. C'est la même chose qu'on pourrait dire la même chose de l'Union européenne. Donc ça, c'est une des exigences fondamentales. Et après, en termes de recommandations et d'exigences que nous pouvons avoir, c'est si on prend thème par thème, par exemple sur les questions agricoles, loin de développer une nouvelle agriculture industrielle telle que le préconisent les programmes d'économie verte qui ont été édictés par le PNUE ou par d'autres organismes internationaux. Il s'agit de défendre les cultures vivrières, il s'agit de défendre des principes de souveraineté alimentaire, de défendre les 1,7 milliard de paysans qui, à l'échelle de la planète, vivent et font vivre de leur culture agricole locale et qui permettent de préserver les territoires, qui permettent de développer des pratiques bien souvent qui sont beaucoup plus respectables et respectueuses et en tout cas en lien avec les exigences écologiques. Donc ça, c'est sur le plan agricole. Sur le plan énergétique, par exemple, il y aurait une recommandation, une exigence qu'on porte et qui n'est pas du tout entendue, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, étant donné les exigences climatiques, il faut stopper tout nouveau forage de pétrole, de gaz, toute exploration de charbon nouvelle à l'échelle planétaire. Pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui une situation de pénurie de ressources énergétiques fossiles, mais on a une situation de trop-plein si on se rend compte que les exigences climatiques nous imposent de laisser 4 cinquièmes des ressources énergétiques fossiles prouvées actuellement existantes sur la planète dans le sol et ne surtout pas les consommer avant 2050 si on veut rester sur des trames d'augmentation de la température qui restent plus ou moins maîtrisables. Donc la recommandation, c'est simplement de laisser le pétrole dans le sol et de ne pas en extraire de nouveau, ce qui veut dire moratoire à l'échelle internationale. Moratoire à l'échelle internationale, ça veut dire pas de gaz de schiste, pas de sable bitumineux, pas d'offshore au large de Marseille ni au large de la Guyane, pas d'offshore au large du Brésil, mais pas non plus en Arctique. Et consacrer aujourd'hui les financements qui sont utilisés par ces multinationales pétrolières et gazières pour aller chercher du pétrole toujours plus loin, utiliser ces ressources pour développer des politiques de sobriété, des politiques d'efficacité énergétique dont on a absolument besoin. L'énergie la plus propre, la plus rentable et la moins chère étant celle qu'on ne consomme pas. Donc ça, c'est sur les questions énergétiques. Sur des questions telles que le financement du développement et la lutte contre la pauvreté, on a un certain nombre de préconisations extrêmement concrètes qui sont la mise en place de taxes internationales, taxes sur les transactions financières. C'est une revendication historique portée par ATTAC et aujourd'hui par toute une série de mouvements à l'échelle internationale. Il faut la défendre et la mettre en place réellement, et la mettre en place pas simplement pour récupérer les quelques centaines de millions d'euros qui pourront permettre de sauver la face, mais pour à la fois déconstruire le pouvoir de la finance et ponctionner de manière extrêmement importante la finance internationale pour financer des choses utiles et qui permettent de faire que les populations vivent mieux.
Merci.
Des taxes internationales, il peut y en avoir sur toute une série de sujets, il peut y en avoir sur l'énergie, il peut y en avoir sur toute une série de sujets, donc on a un certain nombre de préconisations là-dessus. Et bien, de manière plus large, et là, il faut peut-être sortir de ce qu'on a comme préconisation extrêmement concrète, c'est se rendre compte que les biens communs, que les communs de l'humanité, que l'eau, les forêts, la terre, l'énergie, l'air, les océans, tout ce qu'on veut, sont bien plus et bien mieux gérés lorsque les communautés locales sont en charge de la gestion de ces biens-là. Ce ne sont pas les populations autochtones.
Maxime, merci beaucoup. Désolé, on va devoir arrêter. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation. Et je renvoie donc les auditeurs vers les sites de tes organisations, donc Attaque France, Hightech, Alter Echo, donc pour mieux se renseigner sur ces questions. Merci.
Je vous en prie, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Donc nous allons enchaîner. Donc comme l'a dit donc Maxime, l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas, tout simplement. Et donc face à tous ces échecs internationaux, on va agir un peu plus localement et montrer justement que il n'y a pas que du négatif globalement, il y a aussi du positif dans ce qu'on fait dans les associations, la société civile, donc avec la cycloficine et avec Giuseppe qui est là donc pour nous en parler. On va faire une petite pause musicale en mettant donc une chanson donc de Duval MC. Qui est sur sur les gaz à effet de serre.
Et donc Cycloficine, c'est un atelier vélo coopératif à Paris. On va en reparler tout de suite après.
Petit problème technique.
Sinon on peut chanter. La bon. La 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 la. Donc c'est pas grave, allez, on va enchaîner sur Cycloficine. Donc Cycloficine, c'est un atelier de réparation participatif et solidaire et de vente de vélos. Donc le but, c'est de développer et gérer un atelier coopératif d'autoréparation et de recyclage de vélos. Donc salut, Giuseppe.
Bonjour à tous. Nous on a démarré cette expérience en juillet 2010, on a maintenant 2 ans d'activité, même si l'atelier a pris un peu de temps à démarrer vu que il faut enchaîner avec les dossiers. On a obtenu des locaux en février, dans le 20e, on est à rue Pierre Bonnard, c'est juste derrière la Flèche d'Or à Paris. Et on propose tous les jeudis, vendredis, samedi après-midi aux gens qui ont des pépins ou qui n'arrivent pas à comprendre comment entretenir et réparer leur vélo, on leur apprend les rudiments de la mécanique, une ambiance un peu conviviale, on va dire. Il y a une machine à café, on cause ensemble, on papote, c'est assez simple, quoi.
Donc, vous avez des soucis avec votre vélo, il ne marche plus, il manque une pièce, ça va de la crevaison aux gros ennuis. Apprenez entre amateurs et passionnés à réparer, huiler, resserrer votre biclou adoré. Venez donner vos vélos usagés, achetez un vélo d'occasion, trouvez la pièce détachée introuvable. Donc, vous bricolez pas mal des vélos, vous récupérez des
Depuis quelques temps, on est avec Vélorussion, dont les membres devaient être ici aujourd'hui avec moi. On est en convention avec la déchetterie de Paris des Lilas. Donc, on a la possibilité de récupérer les épaves que la préfecture de police enlève, les méchantes épaves de vélos qui bloquent le trafic et la circulation. On a la possibilité d'accéder à cette déchetterie et donc de récupérer pas mal de pièces détachées qui peuvent servir pour refourguer et remettre en état de marche pas mal de vélos. Nous, on a ouvert, comme je disais, fin février et là, on est à 260 adhérents. Donc, on voit avec l'atelier de Bastille de Vélorussion, la cycloficine et les autres ateliers qui se mettent en place en Île-de-France qu'il y a vraiment un essor de demande de participation d'abord parce que c'est vraiment... plus que l'aspect mécanique après qui est très important bien évidemment, c'est surtout le fait que les gens ils se mettent ensemble et ils commencent à communiquer sur des aspects pratiques de la vie. Donc on fait des réunions sur un peu de tout de temps en temps, sur les jardins partagés, on a fait des animations avec certaines associations locales qui font les jardins partagés à Ivry, dans le 20e, à la Cité Piton, à Montreuil, etc. Donc c'est assez cool de voir que voilà, il y a plein de gens qui demandent à participer et à s'investir dans une vie locale très solidaire et on va dire même militante un peu.
Donc c'est vraiment, ça fait partie de la recette hein, de Cycloficine, c'est l'auto-apprentissage, le partage d'expériences et pour permettre à chacun de devenir autonome, un épanouissement dans la mécanique qui se veut coopératif et solidaire.
Ouais, si possible, baigner un peu de promiscuité.
Voilà, un peu d'autonomie.
Eh bien oui, tout à fait, tout à fait.
Donc on parlait beaucoup de Rio, c'est le genre d'initiative locale. Vous savez s'il y a d'autres, enfin tu sais s'il y a d'autres, je dis vous parce que en fait moi je m'attendais à ce que vous soyez vachement.
Ouais, on est un réseau
ce
en
soir.
Tout cas.
Je m'attendais à ce qu'il y ait une Vélorussion qui débarque à la radio. Bon, ce sera une prochaine fois. On parlera un peu de la Vélorussion après. Il y a d'autres initiatives dans ce genre-là, dans Paris ou en région parisienne?
Alors, en région parisienne, oui. Il y a, à Clichy-la-Garenne, il y a une autre association qui s'appelle Bicyclède, qui font exactement la même chose que nous. Ils sont un peu plus axés sur l'insertion professionnelle et la formation, mais ils marchent exactement comme nous, et ils sont à rue Martre, à Clichy-la-Garenne. Ils marchent super bien. C'est une super assoce aussi. Il y en a d'autres qui se mettent en place un peu partout en Île-de-France. Alors, je ne me rappelle pas tous les noms, mais je sais qu'à Asnières, il y a un atelier qui se met en place. Dans les Yvelines aussi, ils sont en train de penser à un projet similaire. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qui se bougent sur ce côté-là. Au niveau d'ateliers vélo, en fait, en France, partout, on a créé un réseau, une fédération qui s'appelle Le Recyclage. Mmh. Le Recyclage, c'est encore un jeu de mots... Diable. Et c'est en fait le réseau de tous les ateliers de recyclage de vélo en France, qui compte maintenant, si je me trompe pas, une soixantaine d'ateliers avec plus de 40 000 adhérents. Donc on est une sacrée force de frappe. On pratique tous plus ou moins une espèce d'autogestion financière et une pratique de démarche solidaire et de participation collective des gens qui participent, qui adhèrent à l'association. Et ça marche vraiment très très bien. Il y a des ateliers à Grenoble, à Marseille, à Toulouse... je vais en manquer tout plein, mais bon, ça fait un sacré paquet. Et en plus de ça, on s'est rendu compte à partir de 2007 environ, quand on a commencé à envoyer des contacts aussi à l'étranger. D'abord, moi, je viens de Rome, en Italie, et là aussi, il y avait tout plein d'ateliers. Donc, on a commencé à se relier entre nous et se rendre compte qu'en fait, au niveau européen et même mondial, la demande de vélos recyclés est en augmentation vertigineuse. Enfin, ça augmente toujours plus, et de Madrid en passant par Paris, en allant jusqu'à Rome ou en Argentine ou au Laos ou au Vietnam ou en Indonésie ou en Australie, il y a des ateliers vélo pratiquement maintenant un peu partout, presque dans chaque ville. Ce qui veut dire que quand même, ça peut pas être simplement le désir des Parisiens de faire du vélo. C'est vraiment une démarche universelle de dire il faut arrêter de consommer de cette façon. Pourquoi je dois toujours acheter du nouveau ou me racheter un vélo chaque fois qu'on le pique. Je peux peut-être apprendre à en recycler un, à en faire un, à le construire, ou bien voilà, à soutenir une association comme la nôtre en achetant un à un prix modéré. Donc c'est pas mal intéressant, quoi.
Je me pose une question toute bête. Est-ce que vous récupérez des pièces de Vélib?
Alors normalement non. Il nous est arrivé d'en trouver dans. En fait, les gens portent des pièces souvent. Et donc, il nous est arrivé de retrouver des pièces de Vélib, des roues, par exemple, qui sont trouvées dans la rue, nues, et ils disent, voilà, j'ai trouvé une roue de vélo, et puis on découvre que c'est une roue de Vélib. Nous, on n'a ni l'autorisation, ni l'envie, en fait, de récupérer du Vélib, parce que c'est relou, c'est lourd, c'est pas très facile à user, le Vélib. C'est un vélo qui est fait pour ne pas faire du vélo, on dit. Voilà, en déchetterie, de temps en temps, on trouve des carcasses de Vélib, mais généralement, Deco fait récupérer ses propres vélos pour les retaper ensuite et les remettre en circulation.
Tu veux dire qu'ils ont un atelier aussi?
Oui, ils ont un atelier, et je pense qu'ils marchent même très très bien.
Ouais, j'imagine.
Enfin, très bien du façon technique, après, du point de vue humain et de traitement du salaire, je sais pas.
Quoi, c'est pas autogéré chez Deco?
Non, je pense pas que Deco propose l'autogestion salariale, mais bon. En tout cas, voilà, vous les voyez sûrement partout dans Paris. Les mécaniciens de Vélib, ils sont toujours sur les bornes en train de réparer les vélos que les gens détruisent. Non, nous, on va vraiment. Maintenant, depuis un certain temps, on commence à récupérer des vélos aussi. C'est les syndics de copropriété qui nous appellent, et donc les bailleurs sociaux qui nous appellent et qui disent voilà, on a une cave pleine de vélos, venez s'il vous plaît les enlever. Donc, on a construit des vélos cargo, et la Vélorussion et la Cycloficine s'occupe de récupérer les vélos avec des vélos, c'est-à-dire qu'on porte pas de fourgon ou de voiture.
Alors vélo cargo, c'est quoi?
Les vélos cargo, c'est tout simplement, bah des fois c'est juste des carrioles ultra longues sur lesquelles on peut charger pas mal de bécanes. Mm-hmm. Et pour ce qui est de la cycloficine, on a construit carrément des vélos cargo, c'est-à-dire c'est en Angleterre on les appelle des long johns, c'est des vélos avec une zone de charge à l'avant sur laquelle on peut poser plusieurs vélos entassés un sur l'autre. On arrive à en mettre 4, 5, et donc avec 2, 3 voyages, on peut enlever carrément une cave de vélo.
Donc, promotion, je termine. En même temps, je triche un peu, je lis le petit tract. Cycloficine, c'est une promotion active du vélo, un lieu où l'on veut promouvoir l'usage du vélo en ville, en facilitant l'entretien et la réparation des vélos. Il a comme vocation de multiplier le nombre de cyclistes quotidiens à Paris, en offrant la possibilité d'acquérir un vélo et de l'entretenir à moindre coût. L'activité de l'atelier vélo se base sur la revalorisation des vélos abandonnés et des pièces détachées. Donc c'est tout ce que tu expliquais.
Exactement.
Et je vois que tu portes aussi un t-shirt, il y a écrit « Vélorution universelle ».
Oui, alors...
En 2012, donc tu le portes activement tous les jours.
Presque, il faut quand même le laver de temps en temps, mais ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler du coup, puisque
la Vélorution universelle, en fait, si quelqu'un d'entre vous connaît la Vélorution, c'est le principe, c'est en fait une fois par mois d'occuper l'espace public avec de la fête, des vélos, en revendiquant le fait que voilà, se déplacer à vélo c'est plus intelligent, ou à pied, ou en roller, ou en trottinette. Avec en hurlant des slogans contre les piétons qui sont prisonniers dans les voitures. Et donc une fois par an, on célèbre cela depuis maintenant depuis 3 ans, hein, ça c'est la 3e édition, avec une Vélorution universelle, c'est-à-dire qu'on appelle un peu nos copains et les gens qu'on connaît qui font partie du monde vélo un peu partout en Europe, et on organise une Vélorution universelle. Elle a eu lieu 2 années de suite à Paris, en juillet, et l'année dernière, on a décidé de passer le relais, donc cette année c'est à Concarneau que la chandelle est passée. Donc c'est eux qui vont organiser cette Vélorution universelle. Elle se tiendra le 13, le 14 et le 15 juillet 2012, donc maintenant. Et il y aura pas mal d'initiatives, je sais, d'après nos camarades là-bas à Concarneau. Et voilà quoi, donc on a hâte d'y aller. On va peut-être partir, on va sûrement partir de Paris à vélo, et il y a une petite caravane qui va se déplacer à partir de Paris, à la fois de Concarneau. Voilà.
Et donc pour revenir à la cycloficine, donc moi, donc si je suis parisien, je peux vous trouver donc où exactement?
Alors si tu es parisien ou habitant de Montreuil ou de Bagnolet ou de Pantin ou de n'importe où, tu peux nous trouver à rue Pierre Bonnard au numéro 15. C'est la petite rue qui est parallèle à rue de Bagnolet, juste derrière la Flèche d'Or. Quand tu arrives au croisement, généralement tu noteras des vélos bizarres qui sont les nôtres, garés un peu partout sur le parking vélo, et des fois aussi carrément au milieu de la rue. Voilà. On est ouvert tous les jeudis, vendredis, samedi, je répète, de 13h30 à 19h30.
Donc il y a un site web aussi qui est le www.cyclocop, cop avec deux o comme une cop, .org, et une adresse mail paris@cyclocop.org. Donc voilà, il y a une adhésion annuelle pour l'association, donc 15 euros en tarif réduit ou 25 euros en tarif normal, pour un accès illimité à l'atelier et au conseil.
Voilà, vous avez tout dit.
Et donc, par exemple, donc moi je suis parisien, donc si je veux venir, est-ce qu'il faut avoir déjà un vélo ou non, ou...
C'est pas nécessaire, tu peux partir d'une épave et commencer à te la retaper complètement tout seul, avec notre aide évidemment, les outils et les pièces détachées. Et là, en fait, on essaye d'apprendre aux gens à... décider eux-mêmes quel est le prix que le vélo va avoir. Ils savent combien d'heures ils ont passé dessus. On leur laisse carrément la possibilité de choisir s'ils vont nous donner 10 centimes, 10 euros, 50 euros. Donc on a eu à peu près toutes les fourchettes de prix. On laisse les gens vraiment autogérer leurs finances, et on leur dit vraiment à votre bon cœur, c'est la formule magique.
C'est quasiment du prix libre, en fin de
compte. C'est du prix libre, exactement. Ça pour les épaves et les vélos et les pièces détachées. Pour ce qui est des vélos que nous réparons, étant donné que nous, on est salariés depuis quelques mois là, on est à 2 salariés, on va bientôt embaucher une 3e personne, on a des vélos qu'on retape nous-mêmes. Pour ceux qui ont, envie d'avoir un vélo tout de suite, ils peuvent trouver des vélos recyclés à maximum 80 euros. ce qui est quand même pas mal parce que bon, il y a une fourchette entre 40 et 80 euros et les vélos ils sont en excellent état parce que on les a retapés, on les a bichonnés un peu, donc ils sont bien prêts à rouler quoi.
Et donc le cyclopiscine, ça a mis combien de temps à se mettre en place? Parce que enfin, c'est juste pour nos auditeurs, s'il y en a qui veulent mettre un projet similaire en place, quel conseil tu as à leur donner avec l'expérience que tu as, si bien sûr tu peux les aider à ce sujet. Et parce que déjà 2 ou 3 salariés, c'est quand même c'est très positif.
La première chose à faire quand on crée une association dans ce genre, que ce soit du recyclage de vélo ou n'importe quelle autre chose, c'est s'armer de patience. Parce qu'avant d'obtenir des locaux et des autorisations et des subventions, il faut faire des dossiers. L'administration française demande beaucoup de travail. Elle donne aussi, donc c'est quand même pas mal. Enfin, moi, je viens d'un territoire social italien qui est dévasté après 15 ans de Berlusconi. Donc, chez nous, faire une demande, ça veut dire juste attendre que la demande ne soit pas répondue indéfiniment. Tandis qu'ici, tôt ou tard, quelque chose arrive, surtout si on enchaîne. Donc, la deuxième partie du conseil, c'est il faut bosser vraiment très dur. Nous, on a travaillé plus ou moins 2 ans en faisant des activités de rue, en faisant des ateliers participatifs, des animations avec les enfants, en allant rencontrer les élus, en allant rencontrer les régies de quartier, les missions locales. J'en passe parce qu'il y avait vraiment... il y a 2 ans de dossiers à construire, quoi. Mais après, ça dépend des associations, ça dépend de quel niveau d'écoute il y a de la part des élus. Et c'est surtout eux qui débloquent les clés des locaux et des subventions. Mais bon... après, ça peut se passer même très rapidement. Donc, une fois que les locaux ont été obtenus, nous, on a juste explosé. C'est-à-dire qu'on s'y attendait même pas. Mais la même chose est arrivée pour Vélorussion à Bastille. On a demandé, parce que je fais aussi partie de Vélorussion, on a demandé pendant 3 voire 4 ans la mise à disposition de ce local qui était la vieille maison du vélo où la mairie de Paris faisait juste rien. Et après 3 ans, elle a ouverte. Maintenant, elle est ouverte depuis octobre. Elle a 1200 aidés adhérents. Elle marche. Presque trop bien, tellement il y a des gens dedans à l'intérieur. Il y a la queue dehors le jeudi à 4h, donc c'est incroyable, quoi. Et ça montre vraiment que des initiatives dans ce genre doivent être multipliées. Il y aura assez d'ateliers à Paris quand il y en aura un dans chaque arrondissement, je pense.
Et donc, du coup, mais en termes de finances, ça doit quand même. Il y a eu des aides financières aussi.
Il y a eu quelques aides financières, pas de la part de la mairie, de la part de la Fondation de France qui, en ce moment, subventionne pas mal les discours lié à l'insertion professionnelle, à la formation, à l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est sur ces 3 créneaux qu'on a travaillé un peu avec Julien Allaire, Arnaud Albeck, Gianpiero Ripanti, un autre Rital, Marie Hubert, et donc on Aurélien Morin, voilà, on était une sacrée belle équipe, pas très nombreux, mais assez doués et convaincus de ce qu'on faisait. Donc, on a réussi à décrocher pas mal de petites subventions qui, sommées, ont fait le départ de la trésorerie de l'atelier. Oui. Mais rien n'est donné. Hein. Nous, on marche vraiment en autogestion. Donc, mois par mois, il y a eu des mois de sous-marin et des mois où on a ouvert la bouteille de vin rouge ou de champagne. Mais voilà, ça dépend, quoi. Ça dépend des saisons, ça dépend des gens, ça dépend de leur cœur, de leur imagination, de leur envie de participer. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, on est content.
Donc effectivement, on peut citer, hein, vous avez réussi à trouver des partenariats avec la régie de quartier Saint-Blaise-Charonne.
Tout à fait, ouais, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs.
Avec Paris Habitat, donc la Fondation de France et la mairie de Paris.
Oui.
D'accord, bon bah, merci beaucoup donc Giuseppe.
Merci à vous.
Donc petit rappel, donc si on veut vous retrouver, donc quel est le meilleur moyen pour vous retrouver, d'après toi?
Crier à l'aide quelque part dans le 20e avec un vélo et quelqu'un vous indiquera où est l'atelier. Non.
Alors on va rappeler tout ça. Donc c'est Cycloficine Atelier Vélo Coopératif Paris. C'est au 15 rue Pierre Bonnard dans le 20e, juste à côté de la Flèche d'Or. Donc le site web, on rappelle, c'est www.cyclocop.org et le mail paris@cyclocop.org. Les horaires d'ouverture, c'est jeudi, vendredi et samedi de 13h à 19h.
Bon bah merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Donc pour nos auditeurs, donc vous avez bien compris, hein. Si
juste la prochaine Vélorussion.
Ah oui, ça c'est très important. Alors samedi soir à 21h30. Samedi soir à 21h30, il y a une magnifique Vélorussion nocturne. Il y aura de la musique et des couleurs et des lumières. Donc venez nombreux. Le rendez-vous, c'est devant le parvis de l'Opéra Bastille. à 21h30, sachant qu'on partira un peu plus tard quand même, vu que c'est de la nocturne. Généralement, on reste un peu là pour causer un peu avant et se relationner, socialiser. Voilà.
Et donc, Concarneau, tu nous... Enfin, petit dernier appel du rendez-vous.
Ouais, le Concarneau, donc je rappelle, c'est le 13, le 14 et le 15 juillet à Concarneau. Vous pouvez voir toutes les informations sur velorussionuniversel.org. C'est tout attaché, velorussionuniversel.org.
Est-ce que vous prévoyez un petit truc pour Notre-Dame-des-Landes entre le 7 et...
Je sais que certains y pensent, oui. Moi, personnellement, je pourrais malheureusement pas y être, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, quelques personnes qui sont en train de penser à un relais entre les deux ou quelque chose dans ce genre.
D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, bah, du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission sur l'agenda, justement. Donc, tu as parlé de la vélorussion nocturne, ce qui est très bien. Mais à vélo, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent cet été. Il y a deux initiatives, on peut dire nationales et internationales même. Il y a l'Écotopia Bec Tour. Je pense que tu dois connaître.
Oui, bien sûr, je connais.
Je profite du fait que tu sois là pour en parler.
C'est très bien, l'Écotopia Bec Tour.
Et donc, qu'est-ce que c'est
Ben en fait, c'est se réapproprier là aussi de son propre mode de tourisme à vélo, en passant par des initiatives, des forums, des initiatives paysannes qui pratiquent là aussi des autour de nos valeurs, on va dire écologie, soutenabilité, réduction des déchets, etc. Autre mode on dit altermondialisme. Moi, je préfère autre mode de vie, quoi, juste autre mode de vie. Et c'est super, c'est un tour qui se déplace en Europe d'année en année. Elle recueille pas mal de participants de toute l'Europe. Donc, c'est une excellente façon de rencontrer plein de gens super sympas et qui ont les mêmes valeurs et qui partagent les mêmes idéaux, qui viennent de partout. Moi, j'ai rencontré des Marseillais, des Tchécoslovaques, des Serbes, des Italiens, des Espagnols. C'est de la balle, c'est trop bien.
Génial. Bah, en tout cas, vous pouvez avoir des infos donc sur l'Écotopia Bec Tour en tapant Écotopia Bec, donc B-I-K-E Tour .net avec un slash EFR pour avoir la version en français parce que c'est international. Et donc cette année, ils vont notamment donc faire ça surtout sur le thème de cette année, c'est vers la décroissance. Mmh. Donc, qui est une thématique maintenant qui est assez connue, donc on n'a pas besoin de tellement la monter, de la détailler. Mais c'est l'objectif étant donc de mettre au défi donc la mentalité de croissance destructrice donc du capitalisme donc qui prédomine donc de nos jours à la recherche de vraies valeurs sociales et environnementales. On peut dire même c'est limite toute l'émission est un peu basée là-dessus. On voit bien que au niveau international, au niveau des institutions, bah, le capitalisme est fortement présent. Au contraire, donc au niveau des citoyens, même, enfin des personnes, quoi, l'autogestion arrive à mettre en place donc des alternatives à ce niveau-là. Et donc l'Écotopia Bec Tour donc va traverser donc trois pays cette année. Donc là, il va commencer par la Catalogne. Il va passer en France, donc dans le sud de la France, et il va aller en Italie. Donc ça va être de juillet à septembre 2012. Je pense que ça va être quelque chose vraiment de très très intéressant à ce niveau-là. Et nationalement, il y a aussi donc l'Alter Tour, donc qui là est aussi une initiative alternative, mais qui est beaucoup plus, pour les auditeurs, ils doivent le savoir, c'est beaucoup plus organisé là pour le coup.
Ouais, il me semble aussi. Je ne connais pas très très bien l'Alter Tour. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui y participent et je salue l'initiative, elle est merveilleuse, mais je l'ai pas suivi énormément, donc je sais pas en dire beaucoup plus.
D'accord. On avait fait une émission l'année dernière avec eux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'alter dopage, qui est en fait la pratique de la sieste.
Alors justement, donc juste pour détailler vite fait l'alter tour, donc celle-là, c'est une action qui considère comme sportive. Et donc le but de l'alter tour, c'est vraiment d'être une sorte de contre-tour de France. Donc ce que Cyril disait sur le dopage, c'est justement que le principe, c'est d'aller vers un sport qui n'est pas basé sur la concurrence, mais plutôt sur la coopération. Donc vraiment là, c'est vraiment, ils se considèrent comme un sport. Donc avant de s'y inscrire, là pour le coup, donc pour l'Écotopia, on peut y aller plus comme ça, en les contactant, mais en s'organisant vraiment de façon ultra autogérée pour le coup. Donc tout le trajet, même fait sur un wiki,
Donc c'est vraiment une construction pour le coup autogérée. Pour l'Alter Tour, donc c'est vraiment une organisation différente. Il y a beaucoup de partenaires. Et donc c'est vraiment une épreuve sportive, donc il faut avoir, il faut se préparer un petit peu avant parce que c'est payant pour y participer. C'est un coût, donc je me rappelle plus exactement des prix, mais en tout cas c'est un coût à ce niveau-là. Et ça demande aussi à aller chez le médecin récupérer donc une feuille comme quoi on est une feuille en gros qui permet d'aller vers faire des actions sportives. Une sorte de garantie en fait, comme quoi on va pas avoir une crise cardiaque dedans. Ça se fait en fait en général pour les épreuves sportives, et aussi d'avoir une assurance. Donc c'est deux démarches complémentaires différentes, et qui sont en plus pas loin, hein, ce que j'ai compris, parce que en fait ils vont traverser donc plein de milieux alternatifs, donc Ecotopia Bike Tour aussi, hein, vont passer certains, parfois dans certains lieux qui sont les mêmes quand on regarde les trajets vers juillet août à ce niveau là Et donc cette année, c'est sur la thématique, ça va être surtout sur l'alimentation, la faim, la faim dans le monde, donc notamment. Et donc voilà, c'était pour présenter ces deux initiatives qui sont, je pense, assez intéressantes l'une de l'autre, et pour inviter nos auditeurs à s'approcher aussi, enfin pour leurs vacances, de faire un peu plus de tourisme beaucoup plus local à vélo.
Responsable.
Responsable, exactement. Et de ne pas hésiter. Donc dans l'agenda, il y a aussi une initiative, donc samedi il y a donc un collectif de réappropriation de l'espace public à Saint-Quentin en Yvelines, donc ils font des actions, une journée de réappropriation de l'espace public avec une vélorution donc le matin, leur objectif étant de monter en fait un groupe de vélorutionnaires localement. Donc ils profitent de cette journée pour essayer de rassembler des personnes et de mettre en place donc un groupe de vélorutionnaires à Saint-Quentin à l'occasion de cette journée. Et il y aura des débats l'après-midi dans l'espace public, dans le parc de Saint-Quentin-en-Yvelines en fait. Donc pour ceux que ça intéresse, vous allez sur crêpe-stqy.net. Et l'après-midi, il y aura aussi une action de guérilla jardinière. Donc il y a là qui est une action en fait de revégétalisation de l'espace urbain. Qui est assez intéressante aussi, donc aussi pour nous à ce niveau-là. On va donc finir l'émission. Je ne sais pas si vous avez encore quelque
moi,
chose à ajouter.
Dernier mot. Bon, mais l'émission, je pense la semaine prochaine, on en parlera un petit peu plus. Rappelez que du 7 au 11 vers Notre-Dame-des-Landes. Il y aura un grand rassemblement européen contre les projets inutiles. Donc on entendra parler évidemment de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la lutte continue sur la zone à détruire ou à défendre selon le point de vue. Il y aura aussi tout un tas de discussions autour d'autres grands projets inutiles européens comme la ligne Lyon-Turin et plein d'autres choses encore. J'ai malheureusement pas l'adresse du site en tête, elle est un peu compliquée en plus, mais bon, chercher rassemblement projet inutile, grand projet inutile,
je pense. Zad.samiznad.net.
Voilà, non, c'est zad.nadir. Cherchez Zad aussi.
De toute façon, vous pouvez écouter l'émission donc sur internet et on vous mettra les liens. On vous mettra les liens, donc vous pourrez télécharger l'émission et la réécouter.
On donne juste peut-être l'adresse du site pour les auditeurs, zoom-ecologie.net.
Voilà. Exactement.
Vous donc, avez toutes les archives des émissions passées.
Et vous pourrez réécouter Giuseppe et nous parler donc de la cycloficine. Merci beaucoup Giuseppe.
Merci à vous et au revoir. Toi.
Et donc on va du coup finir en mettant un peu de musique, donc notamment en écoutant Duval MC sur une chanson donc qui s'appelle Gaz, qui parle du gaz en général, une chanson qui est plutôt opposée à ce type de choses, donc qu'on peut retrouver aussi sur internet si vous voulez, qui veut leur écouter. Donc bah voilà, bon, on a fini l'émission, la bande à Weber. Hein,
voilà, fini. Et tout de suite après on entamera la soirée musicale et on écoutera Musique Antille.
Vous pouvez écouter aussi l'émission donc le mardi matin sur FPP.
Ça vient de changer, je crois que c'est de 8h à 9h.
Exactement. Et on vous laisse et on vous dit salutations écologiques et solidaires.
Ciao.
Salut. Salut.
je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Il faut qu'on se nourrisse de la tactique la plus docile. Se lassant fort la fin de la parenthèse des énergies fossiles. L'air pétrolifère se finit, nul besoin de phare pour le voir. L'homme a des gants dégueulasses, faire va nous dégueuler un de ces soirs. Gommons ces galeries de cinglés, puis déréglons les plans. Nous avons stérilisé tant qu'on ne sème plus que des écrans. Nous avons bulldozérisé tout le globe et miné tous ses flancs. La crise écologique a bel et bien monté d'un cran. Rien qu'à la loi du chaos, y'aura pas d'alerte à la météo, y'aura pas d'info, y'aura pas d'intro, car ça n'a plus qu'à péter tantôt. La catégorie des catins qu'on atteint, c'est que d'un gadins de l'écho sur l'éclat, les gars tombés là, de la marée noire à bébé jusqu'à Fukushima. Sur sa planète, l'homme se comporte tel un terroriste. On pète les nappes phréatiques pour du gaz de schiste. La tendance à s'accaparer se répand comme la peste. Les banquises, les forêts, les faunes ont pris des méga roustes. De plus en plus dépendants, nous sommes devenus fossilovores. Toxico du carburant, construction, chauffage et transport. Dans les engrais, les aliments et les médocs, on en déguste. La nature nous nourrit et nous de plastique on l'infeste. La guerre maintenant s'appelle géostratégie. On s'échange un gazoduc contre 14 pays. Nous devenons pétrole à force d'en bouffer. Nous avons pris ces énergies, mais qu'avons-en nous fait? Nous avons pilonné le monde au lieu d'en lire mieux les pages. Nous avons donné du fuel à nos fantasmes de carnage. Nous avons méga boosté nos avidités bancales. Et nos erreurs sont devenues industrielles et mondiales. Une guerre avant le pétrole faisait mille fois moins de morts. Mate les bilans des conflits depuis que ça carbure. Pour une telle énergie colossale, étions-nous assez matures? Vois les vallées de béton et les fleuves de voitures. Les pipelines et les tankers, les torchères et les forages. Tout cela a-t-il ouvert en nous le sens du partage? En même passant tant de folie folle, on aura cramé une matière végétale ayant macéré sur des millions d'années. Fini le pétrole, le charbon, l'uranium et le gaz. N'attendons pas la dernière goutte, le point de fin de phrase. Abandonnons ces énergies, notre mode de vie s'explore. Et prions pour que nos conneries nous aient fait grandir. Gaz, il faut que l'on se déplace de la tactique la plus tranquille. Gaz, il faut que l'on se nourrisse de la tactique la plus locale. Gaz, il faut que l'on se vêtisse de la tactique la plus habile. Gaz, il faut que l'on se réchauffe de la tactique la plus sociale. Gaz, il faut que l'on se déplace de la tactique la plus tranquille. Gaz, il faut que l'on se nourrisse de la tactique la plus locale. Gaz, il faut que l'on se vêtisse de la tactique la plus habile. Gaz, il faut que l'on se réchauffe de la tactique la plus sociale.
Politique man,
non, politique man,
yeah.
Qui t'échappe?